tous les premiers mardis de chaque mois.
Les Rendez-vous de la Peste, l'émission qui traite de l'économie sociale et solidaire en Mayenne.
À 19h sur l'autre radio.
Bonjour chers auditeurices et bienvenue dans cette émission Les Rendez-vous de la Peste, une émission un peu particulière puisque on est au milieu de la Biocoop, enfin au milieu, en plein cœur de la Biocoop de Saint-Berthevin qui a ouvert ses portes en juin et c'est rigolo et on nous a mis dans la cave, donc on est entouré de vin. Aujourd'hui pour une émission donc un peu spéciale en public qui sera animée par Élodie Clinchard qui est référente économie circulaire au sein de la PES avec deux invités, Benjamin Potier, bonjour Benjamin.
Bonjour.
Et Christophe Asseret, bonjour Christophe.
Bonjour.
Bonjour Élodie, bonjour. Je te laisse prendre la suite. Aujourd'hui on va parler économie circulaire, alimentation durable, lutte contre le gaspillage alimentaire. Est-ce que tu peux nous présenter tous ces mots un peu savants et nous raconter qu'est-ce que c'est ?
Alors bonjour à tous, bonjour Benjamin, bonjour Christophe et bonjour Caroline. Alors du coup effectivement aujourd'hui on va parler de l'économie circulaire appliquée au domaine de l'agriculture et de l'alimentation. Donc comme tu le disais effectivement on va parler d'approvisionnement durable, de production et de consommation responsable et effectivement aussi de gestion des déchets. Donc pour resituer un petit peu l'économie circulaire ça consiste à la production en fait de biens et de services de manière durable et responsable en limitant la consommation des ressources, en préservant donc du coup les ressources et en réduisant aussi la production de déchets. Et donc du coup il s'agit de passer d'une économie du tout jetable à une économie en fait qui soit plus circulaire. En sachant que le quart du coup des émissions de gaz à effet de serre en France provient de nos assiettes, j'avais un peu envie de vous poser la question de savoir en fait qu'est-ce que pour vous signifie l'alimentation durable, à quoi ça fait écho? Quand on parle d'alimentation durable, qu'est-ce que pour vous ça signifie ?
Alors Christophe peut-être.
C'est à moi de démarrer alors.
Toi qui es en fait à la source de l'alimentation, puisque tu es maraîcher à Sassé, comment toi tu produis ? Qu'est-ce que ça veut dire faire pousser pour mettre dans l'assiette de l'alimentation durable ?
Pour moi, l'alimentation durable, donc moi je suis maraîcher. Et je fais un peu de céréales. Et pour moi, l'alimentation durable, c'est produire déjà d'une façon qui respecte l'environnement. C'est avoir une ferme où il y a de la biodiversité et avec des éléments dedans qui permettent de préserver et de garder l'eau. Qui permettent de garder les insectes, les animaux. Donc ça, c'est les premiers points environnementaux. Et puis après, sur les volumes et les quantités de production, enfin sur les volumes de production et la façon dont ils sont faits, c'est essayer de faire que ces produits soient livrés localement. Et que ces volumes produits correspondent à une demande locale. C'est-à-dire qu'on produit pour vendre, on ne produit pas pour jeter. Donc ça, c'est déjà pas mal, je trouve, déjà.
Ouais. Un beau projet, en fait. Du début à la fin.
On peut peut-être en rajouter encore, mais bon, je
on va en reparler,
déjà, ça recercle un peu, quoi.
Benjamin, toi tu es chargé de communication, c'est ça ?
Oui, c'est ça, ouais.
Pour la Biocoop Mayenne Biosoleil, donc l'ensemble du réseau Biocoop en Mayenne, excepté la zone dernière. Qu'est-ce que c'est pour toi l'alimentation durable ?
Pour moi, c'est de travailler avec notamment des producteurs locaux, donc au plus proche quand on peut le faire, sur des produits de qualité. Donc on parle de qualité, on parle déjà de produits de terroir, des produits aussi qui peuvent être labellisés ou qui vont correspondre à une démarche aussi de commerce équitable, solidaire, et donner de la priorité aux produits au plus proche. C'est-à-dire que tous les produits qu'on va pouvoir avoir localement, on va essayer de les avoir localement, mais aussi... par exemple, si on prend le cas des agrumes, pas prendre des agrumes qui viennent du Brésil, mais d'Italie, d'Espagne, et de travailler un peu sur les saisons. Je pense que déjà, si on part sur une base comme ça, sur un commerce, c'est déjà plutôt pas mal. Et de revenir aussi sur une idée de ne pas trop commander et de jeter. De réussir à avoir ne pas faire de gaspillage alimentaire, ça passe aussi par nos magasins. Donc essayer d'avoir des commandes au plus juste, c'est un gros travail. Et de favoriser aussi des démarches plus zéro déchet, de produits solides, de vrac en général.
Alors on va revenir sur la gestion des stocks après, mais du coup tu parlais de commerce équitable. Je me permets, parce que du coup on s'était dit on va parler un peu des labels, mais on peut s'y perdre dans tous ces labels. Dans la Biocoop, qu'est-ce qu'on peut trouver comme type de produit, comme type de label,
on commence par les produits ou les labels, ça va être...
Alors, on commence par les labels.
Ouais, ouais, peut-être par les labels, effectivement, il y en a plusieurs, du coup.
Alors, la base, c'est le label bio. Ouais. Donc ça, c'est l'obligation dans nos magasins, à part sur certains produits spécifiques qui ne peuvent pas être labellisés bio, donc ça peut être en cosmétique ou sur des produits comme le sel, juste comme ça. Donc ça, c'est le logo agriculture biologique et l'eurofeuille. Et après, on a des labels qui vont aller sur d'autres démarches, qui vont des démarches de biodynamie, ouais. Donc ça peut être Déméter par exemple, on peut avoir aussi Nature et Progrès qui est une association de labellisation sur des démarches qui vont prendre en compte toute la globalité d'une ferme et de son environnement pour travailler. Donc, c'est un peu compliqué à expliquer, mais ça, l'idée c'est de travailler toujours sur un produit qualitatif et au plus proche. Et après on va voir tous les labels de commerce équitable qui vont être, par exemple...
Fairtrade.
Exactement, ouais. Il y a le World Wide Organization, Max Havelaar, Fairtrade. On a quelques-unes comme ça. Et aussi, une qui est moins connue, mais qui démarre maintenant, c'est Bioéquitable en France. Ouais. Avec pour idée, c'est que le commerce équitable, c'est des super valeurs, c'est le respect du producteur, c'est le respect du sol. Mais ça ne se passe pas que dans les pays du Sud, ça se passe aussi dans les fermes de tous les jours. Je pense que Christophe pourra en parler tout à l'heure. Et du coup, c'est un label qui a été créé via tout le réseau bio pour mettre en évidence le commerce équitable aussi dans les pays européens.
Ouais,
c'est ça. Et notamment, surtout en France. Ouais.
Ouais, c'est ça.
Alors, le commerce équitable, c'est respecter le producteur, payer le produit au juste prix. Ça se définit comme ça?
Oui, c'est aussi travailler sur le long terme avec un producteur. Ah. C'est pas faire une commande et puis dire après on arrête. C'est des pratiques qui sont proches aussi. C'est-à-dire qu'il faut que les personnes qui travaillent soient aussi respectueuses de leur personnel. Donc ça marche pour les producteurs, mais aussi pour nous dans nos magasins, hein, c'est globalement. Et une juste rémunération du producteur pour qu'il puisse vivre de son travail.
Du coup, avec un aspect sur l'humain et vraiment l'environnement et le respect du sol. Qui est présent.
Oui, alors en fait, depuis une bonne quinzaine d'années, avec le réseau Biocoop, la Mayenne Biosoleil, on a mis en place une planification entre les magasins et les producteurs. Donc la planification, ça veut dire on répartit les produits, je parle pour les maraîchers. Hein. On répartit aux producteurs les produits et on répartit aussi, on attribue des producteurs à des magasins. C'est-à-dire que du coup,
c'est un engagement. On travaille sur le territoire.
On travaille sur le territoire, c'est un engagement dans la durée, dans le sens où il y a un collectif de producteurs en face des responsables de magasins, des responsables de secteurs. On se retrouve deux ou trois fois par an. Et pour là où est l'intérêt pour les magasins, c'est que ça leur donne une visibilité sur les produits qu'ils vont recevoir. Et là où est l'intérêt sur les producteurs, c'est qu'ils savent le volume et quels légumes ils vont mettre en place. Et du coup, ça permet de mieux maîtriser les coûts de production. Et du coup, de mieux rentabiliser les fermes et puis de mieux caler derrière la main-d'œuvre salariée et tout ça.
Et ça permet aussi d'éviter des kilomètres de producteurs qu'un producteur du Nord Mayenne est livré dans le Sud Mayenne.
Ça rationalise en fait dans l'espace et dans le temps le lien entre production et distribution et le travail du coup à la source. Des maraîchers, des paysans, des agriculteurs.
C'est ça. Et puis, ça limite les tensions entre producteurs. puisque on n'est pas sur un système de concurrence. On est sur un système
de
partenariat, d'accord, de complémentarité, de discussion. Mmh. En fait, parce qu'avant ces réunions, les producteurs se retrouvent et négocient entre eux. Mais du coup, c'est une discussion entre producteurs qui est constructive. On n'est pas sur une discussion qui est concurrentielle. Et ça, c'est déjà beaucoup.
Du coup, sur un magasin, ça donne à peu près entre 4 et 6 producteurs sur un magasin pour approvisionner à l'année en légumes. Okay. Et on a à peu près 3-4 arboriculteurs pour tout ce qui est pommes et poires.
D'accord.
Donc, ils sont tous en Mayenne ou un petit peu au Maine-et-Loire. Donc au sur maximum du local, à.
C'est un rayon. Enfin, en termes de kilomètres, c'est un rayon.
Nous, le
qui
local,
est assez,
ouais, dans les magasins Biocoop, on s'engage que ça soit moins de 150 km d'un magasin.
Okay. Alors. Oui, pardon, excuse-moi, Elodie. Je me disais, peut-être parlant de la Biocoop, justement, parce qu'on est sur un réseau de distribution. Donc, c'est à la fois une marque et ce réseau de distribution. Comment ça marche? Qu'est-ce que c'est la Biocoop? Est-ce que c'est un magasin classique, comme d'autres surfaces de vente? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette Biocoop?
Alors, localement, du coup, Mayenne Biosoleil, on est une coopérative qui a 5 magasins, donc 2 à Laval, 1 à Château-Gontier à Mayenne, et du coup, ce magasin-ci à Saint-Berthevin. Nous, on a un historique assez fort parce qu'à la base, c'était une association de consommateurs qui voulait avoir des accès à des produits bio dans les années 80, qui avait créé une association et qui se faisait livrer des produits dans des garages qui se distribuaient entre eux. Après, il y a eu ça un peu dans le nord-ouest de la France, en Bretagne, et un petit peu dans le sud-est aussi. Et les associations ont pris contact, il y a des magasins qui sont créés, et ça a créé le réseau Biocoop en 86. Et nous, on a eu notre premier magasin Lavallois en 89, donc ça fait plus de 30 ans. Ça. Ce qui fait qu'on a un fonctionnement qui est particulier, parce que nous, on est issu d'une association de consommateurs, et on s'est transformé en coopérative pour devenir une coopérative de consommateurs. C'est-à-dire que nos clients sont aussi sociétaires, ont des parts sociales dans la coopérative et nous, ça nous engage à pas mal de choses en magasin pour eux, en fait.
Et justement, quelle est la place de ces sociétaires au sein de Biocoop? Enfin, quelle est leur voix, du coup?
Alors, c'est des gens qui vont régulièrement dans les magasins. Hein. C'est leur premier acte, parce que c'est quand même un acte, c'est issu d'un acte militant, consommer local, des produits bio. Et après, eux, ils ont leur voix via des assemblées générales. On a des événements aussi, on organise des petites conférences de temps en temps. On a des événements avec des partenaires locaux, des associations. Et à l'assemblée générale, ils peuvent élire un conseil de surveillance qui sont une sorte de conseil d'administration composé que de bénévoles qui vont donner une orientation et qui vont définir une direction qui est notre directoire.
D'accord.
Donc voilà, après, c'est des mandats, c'est un mandat de 6 ans pour les membres du conseil de surveillance, et le directoire, ils ont un mandat de 3 ans. Et le directoire, après, va s'occuper de la gestion de tout ce qui va être en magasin, plus opérationnel. Ils mettent en place le projet.
Donc c'est une forme de gouvernance qui se rapproche du fonctionnement un peu associatif, avec des gens qui adhèrent au projet. Et qui peuvent participer aux décisions en étant représentés et ainsi avoir une action sur l'orientation.
Exactement. Ouais.
C'est intéressant. Donc, vous êtes quand même relié à un réseau national?
Alors oui, Biocoop, c'est une coopérative aussi. C'est une coopérative de magasins. Donc ça veut dire que nous, on est sociétaire de Biocoop en national, donc nos 5 magasins ont une voix, et puis un petit magasin, comme le magasin dernier, est aussi sociétaire de Biocoop, qui a aussi une voix, et en gros, on a pareil, un système à peu près similaire, bon, avec des différences, que chaque coopérative est un peu différente, mais on a un système où on adhère à des conventions avec Biocoop sur la commercialité, la communication, les achats de produits, donc ils nous engagent à pas mal de choses sur le côté commercial, communication, humain. Mmh. C'est comme ça qu'on essaie de mettre en place en magasin.
Mais ça vous donne des outils aussi de travail?
Ah bah oui, on a une communication spécifique Biocoop. On a pu voir, maintenant on a une communication nationale maintenant. On a quand même des gens qui nous accompagnent de Biocoop en national pour nous aider.
Il y a un relais qui est fait à l'échelle nationale.
Ah oui, que ce soit sur tous les postes et heureusement parce que ça, c'est un super suivi pour nous. Hein.
Oui, pour garder aussi la même... la même voix à porter, les mêmes messages aussi à faire passer, pour avoir plus de puissance aussi sur les changements de comportement, les nouvelles pratiques.
Il y a plein de thématiques qui sont portées par Biocoop, qui sont super intéressantes, par exemple de retravailler des produits pour limiter l'ultra-transformation, donc limiter les sucres, les matières grasses. Ils ont fait analyser tout environ 300 produits à marque Biocoop récemment, depuis 4-5 ans plutôt, et ils sont en train de travailler pour améliorer les recettes. Donc on a enlevé par exemple les sels nitrités de tout ce qui est viande. Il y a des biscuits où ils ont réduit le sucre, ils ont retravaillé la composition de plein de produits. Tout ça pour que le consommateur, en tout cas, mange le produit le plus sain possible.
Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, c'est de la mutualisation aussi et des énergies collectives. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que et je pense que ça va toucher vraiment les questions de la peste, c'est que là, on est dans une logique de réseau de producteurs, de réseau de magasins. Et est-ce que tu dirais, toi, Benjamin, et peut-être toi, Christophe, que le réseau, ça permet des initiatives innovantes en termes, justement, par exemple, cette idée-là de se fédérer ensemble en tant que producteur, cette idée de travailler ensemble dans la même direction. Qu'est-ce que ça apporte d'être plusieurs? Et est-ce que ça fait avancer les choses? Enfin, est-ce que ça crée du changement?
Je pense que oui, parce que rien que sur notre coopérative, on travaille avec plus de 110 producteurs. Donc rien que ça, sur le développement du territoire, c'est top. Et le développement de la bio, rien que pour ça, c'est super. Ça donne une visibilité à pas mal de producteurs. Ça donne la visibilité aussi à nos magasins de l'autre côté. Je pense qu'il y a eu le travail qui a été fait aussi par tous les réseaux de producteurs, moi je pense aussi Vambio, des choses comme ça. Christophe parlait tout à l'heure de planification, c'est des choses qui sont travaillées avec des réseaux locaux et qui ont été mis en lien avec nous aussi. Donc il y a vraiment une émulsion entre toutes ces structures là qui permet de développer le territoire et l'agriculture biologique.
Et cette planification, elle s'est mise aussi dans un objectif un petit peu de commercialisation et pour pouvoir commercialiser aussi ces produits et avoir quelque chose qui soit assez... qu'il n'y ait pas trop de différence entre les différents producteurs.
Oui, il y a ce volet-là. Il y a le volet travailler la commercialisation. Mais il y a aussi, en fait, le collectif de producteurs là, que nous avons est animé par le Civambio, qui est le réseau des agriculteurs bio en Mayenne. Et on est aussi avec d'autres réseaux. Donc on est avec la FOC, qui est une association de gestion en Mayenne. Donc c'est une association qui permet aux producteurs d'apprendre à faire leur comptabilité, mais qui leur permet aussi d'avoir des formations. Il y a aussi la Confédération paysanne. Donc on voit bien que c'est effectivement là il y a un cercle qui est Biocoop et les producteurs, mais en fait derrière il y a d'autres cercles qui viennent tourner autour. Et donc là on parle de commercialisation, mais en fait il y a aussi derrière la technique,
la
de production, la comptabilité,
l'accompagnement des agriculteurs au quotidien.
Je veux dire, quand on a une formation, quand on ressent un besoin de formation, l'idée à peut-être des réunions qu'on a avec Biocoop, mais derrière on va chercher dans un autre réseau la réponse sur des calculs de comment on fait un calcul de prix de revient, comment techniquement on peut s'améliorer, par exemple faire un demi hectare de carottes, des choses comme ça, quoi.
Des outils ressources sur le territoire pour répondre à des questionnements où effectivement on peut faire appel à des experts ou peut-être des pairs qui sont dans la même démarche et trouver des réponses.
Qui permet aussi de moins se sentir seul, j'imagine, dans sa propre production et de se rendre compte qu'il y a aussi, en fait, ces questions, elles sont aussi relevées par d'autres producteurs et donc qui permet aussi un accompagnement qui soit au global et...
De toute façon, les réponses, on les trouve dans le collectif.
C'est ça, oui.
Alors, on a parlé, on est toujours dans l'alimentation durable, on a parlé un peu des modes de production avec Christophe, comment il travaille, un petit peu comment fonctionne la BioCoop. Dans l'économie circulaire, dans l'alimentation durable, il y a aussi les réseaux de transport. Donc, on parlait tout à l'heure de la distance entre les producteurs et les magasins. Qu'est-ce qu'il y aurait de spécial là ? Est-ce que vous utilisez des réseaux ? On est sur du circuit court. Comment ça marche ?
Alors, sur l'ensemble de nos magasins, déjà, on a 20% à peu près de nos achats qui sont en local, donc à moins 150 km des magasins. Mmh. Donc, ça touche plein de types de métiers, de producteurs ou de transformateurs. Donc, on a des maraîchers, on a des fromagers, on a des gens qui font des produits d'épicerie, on a des gens aussi qui font des produits, des savons solides, des choses comme ça. Donc, ça, c'est la première base de nos magasins. Et après, nous, afin de limiter, on a une proposition de la plateforme BioCoop à côté qui va correspondre à tout ce qu'on ne peut pas avoir en local et qui va proposer le reste des produits. Il faut savoir qu'il y a 87% de l'offre de BioCoop qui est origine France. Donc ça, c'est sans compter les locaux qu'on a dans notre magasin, c'est BioCoop en national.
Et cette plateforme, elle est située où ?
Alors du coup, il y en a 4 en France. Donc nous, on est raffiliés à la Grand Ouest, donc celle qui est à Tatignac, juste à côté de Rennes. Donc voilà, donc après eux, ils ont rationalisé ça, donc ils ont un gros entrepôt où tous les magasins passent commande et après ils nous livrent directement au magasin plusieurs fois par semaine. Et à côté de ça, du coup, les producteurs locaux, il y a une organisation, il y a des producteurs locaux qui vont nous livrer comme les maraîchers deux fois par semaine. Après, on va avoir des producteurs qui vont venir une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines par mois. Et on a aussi une organisation en interne où on a, j'ai ma collègue qui organise des commandes groupées. Parce que des fois, pour un producteur, ça peut être compliqué de se déplacer pour 60 euros de commande ou 30 euros de commande. Et il ne s'y retrouve pas et, là-dessus. Donc du coup, on s'est dit, on va faire des commandes pour les 5 magasins en même temps. Ils sont livrés dans un magasin et après, j'ai ma collègue qui fait le dispatch dans le magasin et nous, on s'organise pour livrer les magasins sur ces produits-là. Donc, ça représente à peu près 20-30 producteurs plus quelques autres propositions qui sont un petit peu plus loin mais qui ne sont pas en local.
Ah, vous arrivez à rationaliser aussi la distribution,
le transport. Ouais. C'est que c'est jamais évident pour des producteurs ou même pour des magasins de bien gérer les commandes. Je pense que notamment sur les légumes, on peut connaître ça parce qu'en fonction des saisons, de la proue, et c'est vrai qu'il y a des producteurs ou sur des produits très spécifiques en épicerie où on ne peut pas se permettre dans un magasin de commander 40 ça parce qu'il y a des DLC, il y a des choses comme ça. Donc du coup, cette organisation collective, elle nous permet d'avoir une offre plus large en magasin.
Et côté producteur, est-ce que vous arrivez à mutualiser un peu le transport avec des producteurs géographiquement proches ou est-ce que vous avez un outil de mutualisation du transport de vos produits ?
Non, il n'y a pas d'outil précis. Il y a un peu de mutualisation qui se font entre certains producteurs. Mais après, on rentre dans la logique, dans le droit de la logistique. Mmh. Et du coup, c'est pas le même que le droit d'un producteur. Donc ça, on a encore pas passé cette étape-là. Et en fait, pour pouvoir mettre une logistique qui profiterait à tous, il faudrait un petit peu plus de volume et qu'il y ait une quantité, un nombre de producteurs suffisamment important qui adhèrent à l'idée pour pouvoir rentabiliser un point outil de récolte commun duquel on pourrait massifier avec un départ camion vers tous les magasins. Mmh. Donc on l'a tenté. On l'a tenté il y a peut-être 6 ou 7 ans. Ça s'appelait Promus. On n'a pas réussi à faire adhérer suffisamment de producteurs pour rentabiliser le projet. Mmh. Mais l'idée était là, elle a failli aboutir.
C'est-à-dire que la Mayenne reste un département qui n'est pas très dense en termes de population aussi.
Donc, oui, ça manquait. On manquait un peu de volume, on manquait un peu de producteurs qui adhèrent au projet, mais c'est pas parce qu'on a raté une fois qu'on recommencera pas. Hein.
C'est ça. Et là, c'était l'idée d'un seul point de collecte ou justement vous aviez déjà imaginé plusieurs points de collecte au sein du territoire qui regroupent du coup des producteurs. Et après,
on avait imaginé, on était arrivé, on avait quasiment finalisé le projet. On avait deux points de collecte, un qui était à Mayenne et un qui était à Entrammes. C'était des caissons qui se géraient seuls. Donc le producteur livrait dans le caisson, il y avait des repères dans le caisson. Et il y avait une livraison avant 6h du matin.
D'accord.
Et il y avait un départ camion vers 7-8h du matin de chaque... c'était des hubs, là.
OK.
De chaque hub.
OK. Donc,
ça, voilà, on n'était vraiment pas loin d'y arriver. Je pense que le modèle est intéressant à réfléchir. C'est vrai que nous, on est une petite... Enfin, Laval reste quand même une petite ville. On n'est pas encore concerné par la livraison exclusivement électrique dans la ville. C'est Nantes, ils en sont déjà bien avancés là-dessus. Ouais. En fait, c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer... Les premiers kilomètres sont pour les producteurs, mais la massification et les derniers kilomètres sont pour des outils plus spécifiques de transport, quoi.
Ouais, plus un service de collecte, quoi, qui puisse redistribuer au magasin.
des projets à développer. Oui. Je crois qu'on a abordé la gestion des stocks
peu la gestion des stocks. Du coup, moi j'avais une question. Est-ce que vous fonctionnez plus en flux tendu pour éviter justement d'avoir trop de stocks, et donc du coup il y a quand même une gestion du stock qui est hyper fine et pas quotidienne peut-être pas, mais en tout cas très régulière.
C'est quotidien parce que les commandes okay. C'est plusieurs fois par semaine, donc on n'a pas trop le choix. Mais non, clairement on essaie de toujours commander au plus juste. Donc on a forcément des gammes de produits où on aura un peu plus de stock parce que c'est ce qu'on appelle des 20-80, c'est des produits qui sont du quotidien où il y a plus de consommation dessus, ce qui est normal dans tous les magasins. Et après, on a des produits où on va regarder plus attentivement nos ventes, la période aussi à laquelle on la vend, pour savoir avoir de la choucroute en été, par exemple, c'est pas forcément super intéressant, mais pour exemple, ou du gazpacho en hiver, ça va être ça. Et du coup, dans les magasins, il y a un gros travail de l'équipe, de nos vendeurs, des responsables aussi qui vont regarder un petit peu ça pour essayer de commander au plus juste. Donc, essayer d'avoir un petit peu plus de stock à chaque fois, mais pas commander trop pour qu'on se retrouve à acheter ça, parce que ça a un impact pour la coopérative. C'est toujours un peu si ça. Bon, on n'aime pas acheter, hein, comme. Tout le monde, je pense, et ça évite, on tient vraiment à éviter le gaspillage alimentaire. Donc, sur un rayon, comme le fruit et légumes, c'est un véritable enjeu, par exemple.
Justement, j'anticipe un petit peu, mais du coup, effectivement, tu parles de gaspillage alimentaire et on estime justement à 10 millions de tonnes de nourriture qui sont jetées, en fait, chaque année, donc ce qui est énorme. Et du coup, l'idée, c'est un peu de comprendre aussi comment vous gérez, en fait, justement, les produits, les invendus ou les produits qui arrivent à date.
On est à côté de deux zones, donc ça tombe bien. Alors en gros, déjà on essaie de commander au plus juste, ça c'est la priorité en magasin pour éviter de jeter. Et après là on a mis en place dans tous nos magasins ce qu'on appelle des zones zéro gaspille. Donc on a une dans le frigo qui est juste là et on en a une autre pour tout ce qui est produit d'épicerie ici. L'idée c'est que quand on arrive à deux jours ou à un jour de la fin de la date, on va mettre une remise en conséquence. Donc on va avoir un moins 20 pour deux jours et puis on fera jusqu'à moins 50. Et on se rend compte que ça fonctionne plutôt très bien, qu'on arrive à limiter nos pertes. Bon, on a toujours des pertes, hein, mais c'est des choses qui sont bien intégrées par nos clients à côté. Et après, on fait déjà ça, c'est déjà pas mal. Ce qui fait qu'on se rend compte qu'on n'a pas énormément de déchets. Et même sur un rayon comme le fruit et légumes, généralement, les produits qu'on enlève, c'est des produits qui sont plus tellement aptes à la consommation. C'est-à-dire que qu'on a, je sais pas, un agrume qui est devenu un petit peu pourri, on l'enlève directement, comme une pomme ou quoi que ce soit. Et c'est clairement des produits qu'on va pas revendre après. Sur ces zones-là, excuse-moi, je coupe.
Et peut-être avant de parler de ce qu'on fait de ces produits qui ne peuvent pas partir avec la réduction et qu'on enlève. Et avant de faire une petite pause musicale, je pense, pour... tu parlais de la manière dont vous travaillez, vous observez, vous gérez vos stocks. Du coup, vous savez bien quelles sont les habitudes d'achat en fait, des clients et des sociétaires qui fréquentent la Bioncoop. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher, les gens ici? Quelles sont leurs habitudes de consommation? Qui sont les personnes? Pourquoi ils viennent là? Quel est le profil des usagers?
Alors, on n'a pas de profil type. Je pense que la première chose, c'est pour ça que d'ailleurs, quand ils rentrent dans un magasin, ce qu'ils vont voir, c'est les fruits et légumes. Après,
Le frais,
oui, clairement. Tout ce qui va être vrac aussi, parce qu'on est dans les rares magasins sur le territoire à avoir une offre aussi large en vrac. Hein. On a plus de 400 références. Je pense que.
On peut peut-être dire à nos auditeurs qui ne le savent pas que vous pouvez venir avec vos sachets, avec vos bocaux. Et du coup limiter les déchets.
Et même pour prendre du fromage ou des produits traiteurs.
Parce que les gens le font. Tupperware.
C'est ça, on peut venir avec son tupperware. On a nos vendeurs qui sont habitués à mettre ça.
Votre panier pour les légumes, ça c'est un classique du marché.
Mais oui, et puis on se rend compte qu'il y a des gens qui. Il y a des gens qui ne sont pas dedans, mais la plupart des clients viennent avec leurs petits bocaux, ils ont des petites habitudes et on se rend compte qu'ils essaient de faire attention ou même des fois quand ils prennent un sachet, on voit des clients qui reprennent les sachets qu'ils avaient pris avant pour limiter leur impact là-dessus.
Donc il y a quand même un profil.
C'est un profil, à ça.
Voilà.
Après, on a aussi des gens qui viennent pour tout ce qui est produits solides, zéro déchet. Par exemple, ce magasin il a la particularité d'avoir un bar à savon. On peut prendre du savon, du shampoing solide à la coupe.
Et
ça, c'est super parce qu'on ne connaît pas les produits, on n'est pas sûr des fois. Ou même d'ailleurs en alimentaire sur le vrac, c'est pareil. Et bah, on aime bien pouvoir tester et du coup prendre la quantité qu'on souhaite. C'est quand même super avantageux. Et après, on a plein de produits spécifiques aussi dans tout ce qui est produits bien-être, tous les compléments alimentaires qui vont arriver à côté. Après, sur tous les produits d'épicerie ou frais, tout à l'heure, on parlait d'un produit, une nouveauté qu'on a eu, qui est le pipi du dragon, qui est un produit un petit peu à part. Et c'est des choses, c'est des petites.
Tu l'as dit très doucement, donc je ne sais pas si les gens ont entendu, parce que c'est en face de moi, c'est le coup de cœur de la semaine, la boisson pipi du dragon. Pardon.
Alors pour expliquer la boisson, c'est une boisson concentrée qui est à base de curcuma, gingembre et qui a une boisson tonifiante. Bon, après, ils ont pris un nom marketing qui est assez rigolo.
C'est vendeur. Voilà.
Mais du coup, c'est des produits nouveautés qu'on ne trouve pas forcément ailleurs, dont en produits frais ou même, je pense à des produits plus classiques comme du kéfir ou du kombucha. C'est des choses qu'on trouve un petit peu dans d'autres magasins, mais pas tellement. C'est quand même nos magasins. Ou des petites épiceries qui font ça patiemment. Voilà. Je pense que c'est la curiosité. Et puis aussi des gens qui viennent aussi qui ont des jeunes enfants. Pour avoir d'être sûr de l'alimentation des données, des petits pots sur des produits couches.
Ils sont déjà sensibilisés effectivement à l'alimentation durable.
Ben, c'est des gens aussi qui sont des fois jamais rentrés dans nos magasins, mais qui viennent parce qu'ils veulent changer un peu leur alimentation suite à la naissance ou trouver des produits comme des couches lavables, des choses comme ça dans nos magasins.
Des produits qu'on ne trouve pas ailleurs ou avoir une démarche en tout cas qui ne soit pas polluante, enfin en tout cas avec cette possibilité de ne pas utiliser d'emballage pour le conditionnement, de choisir juste la quantité qu'il nous faut et de limiter du coup le gaspillage dont on va parler tout à l'heure. Si ça vous va, on fait une petite pause musicale et on se retrouve juste après.
Oye, coño, mi hermano, tú no sabes que tiene tremenda onda, chico. Cuando se muera el compañero, esto será la revolución. Oye, sí. Ay, Ricky. Yo te vi pasear cuando estaba lloviendo. Yo te vi pasear cuando estaba lloviendo. Toda mojadita, mamá. Toda mojadita, mamá. Oye, cómo lo me va.
Campes, l'émission qui traite de l'économie sociale et solidaire en Mayenne.
On est toujours en public à la Biocoop, dans la cave, pour cette émission spéciale sur la Biocoop, autour de l'économie circulaire, de l'alimentation durable et de la lutte contre le gaspillage alimentaire, et toujours aussi sur les ondes de l'autre radio, 107.9 à Château-Gontier, 101.7 à Laval. Donc on est avec Benjamin et Christophe, on a parlé de la production, des réseaux, du transport, de la distribution. On a déjà un petit peu parlé de la lutte contre le gaspillage alimentaire, avec la gestion des produits arrivés en date limite de consommation. Ce que propose la Biocoop, c'est des rayons avec des promotions en fait, sur ces produits qui peuvent aller jusqu'à 50%. Mais il doit toujours y avoir quand même un peu d'invendu malgré une gestion du stock en flux tendu et peut-être aussi des produits dont on ne peut rien faire. On parlait tout à l'heure de pamplemousse qui commence à moisir. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça, Benjamin, à la Biocoop, avec ce qui ne peut pas être recyclé autrement dans le circuit de vente?
Depuis quelques années, là, on a mis en place un système avec Alternatrie, qui vient récupérer en fait tous nos biodéchets. Donc les biodéchets, c'est tous nos invendus de fruits, légumes et produits frais, sauf tout ce qui est viande, parce qu'on ne peut pas mélanger tout ça. Et donc du coup, c'est une entreprise mayennaise, une association, une coopérative, ouais. qui vient récupérer des seaux que nous remplis en interne. Donc tous les jours, toutes nos pertes partent dans des seaux. Et qui vont valoriser ces déchets-là pour les mettre dans un composteur à Château-Gontier pour après, si je ne me trompe pas, produire de l'électricité, de l'engrais.
Du gaz.
Du gaz, oui, c'est ça, à côté. Et donc, du coup, ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place sur nos magasins Lavallois. Le magasin de Saint-Barthevin va bientôt démarrer ça aussi. Et sur les autres magasins, à Château-Gontier, par exemple, on travaille aussi avec la communauté de communes pour faire la même chose. Parce qu'on a le composteur qui est juste à côté du magasin. Donc
là, on est sur ce qu'on appelle la méthanisation, c'est ça?
Méthanisation, du coup, c'est production effectivement de biogaz à partir de la matière organique naturelle. Après, effectivement, il y a le compostage. Du coup, ça peut donner effectivement de la matière, enfin en tout cas des fertilisants naturels pour l'agriculture. D'ailleurs, Christophe, du coup, est-ce que toi, tu fais appel justement à ces fertilisants naturels? Comment se passe le tri à la source des biodéchets
Donc du coup, nous, sur la ferme, pour la fertilisation, moi, je récupère du fumier de cheval d'un centre équestre. Et effectivement, pour tous les déchets de légumes, on a un tas de compost qui, au bout de... mais là, du coup, on attend plusieurs années, est remis sur les parcelles. Et puis, pour ce qui est tout le tri de légumes, donc il y a une partie qui va à RESF et puis une partie qui va à la Banque alimentaire.
Est-ce qu'on peut préciser ce que c'est RESF ?
Donc c'est Réseau sans frontières, c'est pour l'accueil des migrants sur la Mayenne, là, en l'occurrence.
Ok, merci. Okay.
Peut-être préciser, parce qu'on parlait d'alternatrie tout à l'heure, et moi j'aime bien parce que c'est toujours dans le réemploi qu'on parle de l'emploi, que Alternatrie est une structure de l'IAE, l'insertion par l'activité économique, et que du coup ça crée des emplois tremplins pour des gens qui sont en insertion. Ça poursuit un double objectif qui est à la fois de ne pas gaspiller et de permettre à des gens de se réinsérer professionnellement.
Sur différentes activités du coup, que propose Alternatrie, dont ce service de collecte des biodéchets.
On travaille aussi avec eux sur tout ce qui est récupération des cartons. Ouais. Ils viennent dans tous nos magasins récupérer les cartons pour les valoriser après. Ils ont une activité qui est assez large d'ailleurs. C'est super chouette de travailler avec eux.
Et du coup, on a parlé des biodéchets, des fruits et légumes, mais qu'en est-il des autres produits justement qui finissent en déchets et qui sont pas qui
arrivent. Alors on n'a pas beaucoup, on a de la chance parce que on a nos zones anti-gaspi là-dessus. Et qu'en épicerie, on a aussi des histoires de DDM, donc c'est les dates à durée maximale, mais qui peuvent être un peu dépassées. C'est-à-dire que c'est pas comme une DLC qui va, au moment où c'est passé, on peut plus la consommer. Donc là, pareil, on les met en promotion à côté, donc elles sont généralement à moins 30% sur nos magasins. Et on a des petites choses pour expliquer aux clients aussi, parce que c'est pas évident à comprendre les différences entre DLC et DDM et tout, et on peut être perdu rapidement. Et donc du coup, on essaie de les valoriser un maximum comme ça, dès qu'on peut. Ouais. Ce qui fait qu'on arrive à une situation où on a très peu de déchets de perte sur nos magasins. Ouais.
Du coup, vos clients sont quand même assez sensibilisés finalement sur, sur le bien consommé et aussi sur la lutte contre le gaspillage alimentaire avec ces zones dédiées.
On essaie au maximum, en tout cas, via les équipes, on essaie de sensibiliser au maximum sur ces zones-là. On essaie de les mettre en évidence aussi dans nos magasins, via des CLV. Bon, là, je parle de mon métier, mais...
Ah oui, ça c'est la partie installation. Mais oui. Est-ce que vous proposez aussi des ateliers, des choses plus actives sur...
Alors oui, on a plusieurs choses déjà. Quasiment toutes les semaines, dans les magasins, il y a des animations avec des producteurs qui viennent par leur activité. Par exemple, cette semaine, on travaille avec un chocolatier qui vient de Saint-Nazaire, qui est vraiment dans une démarche de commerce équitable où il va aller voir toutes les petites coopératives de producteurs et il va venir présenter ses chocolats et tout le travail qu'il fait sur la sélection des fèves, des coopératives à qui il travaille et ça. On a aussi des producteurs de fromage qui viennent nous voir régulièrement, de pain, qui viennent parler un peu de leurs produits pour sensibiliser autour des spécificités. Hein. Parce qu'il y a pas mal de gens, je ne sais pas s'ils voient un pain riz sarrasin, au début ça peut peut-être paraître un peu bizarre, puis après on leur fait goûter, on leur apprend, ou on a une productrice qui est arrivée il n'y a pas longtemps.
Des ateliers de dégustation.
C'est ça. On essaie d'en faire un maximum. On a eu une productrice de cornichons aussi qui est arrivée l'année dernière, qui a je crois été accompagnée par la PES, si je ne me trompe pas.
Et qui fait
des tartinades de cornichons. Quand on ne connaît pas, au début on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Et du coup, le fait de faire des petites animations, ça permet de présenter le produit et.
De montrer en fait
montrer,
que ça.
Ouais. Donc on a ça. Après, à côté, en février, on avait organisé aussi avec le CIVAM Bio une conférence sur l'alimentation, sur les aliments ultra transformés. Donc, on voulait expliquer de manière assez poussée, on va dire, la chose. On avait invité un chercheur qui est Anthony Fardet là-dessus. Et on avait aussi invité Emmanuel Joie, qui est une personne de Biocop, qui travaillait sur toutes les thématiques d'ultra transformation et comment réduire tous les marqueurs d'ultra transformation dans nos produits. Mmh. Donc elle, c'est elle qui refait les compositions, qui travaille des nouvelles recettes pour avoir moins de sucre, avoir moins de produits compliqués.
Le plus de produits naturels, en tout cas, en proportion.
C'est ça, ouais. Sachant que c'est un gros travail de composition, qu'elle est venue expliquer comment elle faisait ça. Donc c'est pour ça qu'on a appris que, par exemple, ils mettent du jus de betterave pour vous donner des couleurs au saucisson plutôt que de mettre des produits pas terrible. Et elle nous a expliqué un peu comment ils avaient travaillé là-dessus. Et on a eu aussi Oriane du CIVAM Bio qui était venue présenter sur tout ce qui se passait en Mayenne, tous les accompagnements qui étaient faits par notamment sa mission à elle, que ce soit dans la restauration collective, que ce soit aussi par toutes les démarches locales qui arrivaient à côté. Donc on a ça. Puis après, on a un petit journal aussi qui s'appelle Le Brin de Soleil, qui présente un petit peu l'activité des magasins. On essaie de présenter un producteur à chaque fois. On essaie de faire aussi des relais vidéo des producteurs.
Des recettes aussi, peut-être ?
Des recettes. On a des recettes en magasin. on met des recettes aussi dans notre petit journal. Et voilà. Donc après, on a plein de petites thématiques comme ça. Après, on essaie de travailler aussi. On fait des partenariats sur pas mal d'autres choses aussi. On travaille, par exemple, avec le Festival Alimentaire, qui est un festival qui va sensibiliser les gens sur toutes les questions d'alimentation durable et d'agriculture.
Toute la chaîne de valeur.
Voilà, donc on a plein de petits trucs comme ça qui se passent en magasin, mais aussi en dehors là-dessus. Et notamment, cette année, on avait créé une petite commission pour parler notamment de tout ce qui était ultra-transformation. Et on s'est retrouvé au festival Planète en Fête, qui est le festival des producteurs bio, à expliquer un peu comment lire des étiquettes sur des produits. Ouais.
Oui, parce que parfois on peut être un peu perdu, on se dit ben c'est bio, donc du coup c'est, enfin tout est bon, mais parfois ça peut être un peu trop gras ou trop sucré, enfin voilà, et c'est pour ça que la lecture
des petits ingrédients
ça peut être bio et être produit à l'autre bout du monde
aussi.
Donc ouais. Où là on perd un peu aussi l'idée d'être sur quelque chose de local où on n'a pas trop de transport.
Les critères sont pas forcément les mêmes.
L'idée ouais c'est de rassurer les gens aussi globalement. Le bio c'est qualitatif globalement. Quand les gens vont dans un magasin BioCop chez un producteur ou ça localement qui ont cette certification là, c'est quand même des produits qui sont bien travaillés, qui sont du terroir et auxquels on peut faire confiance. Et je pense que c'est surtout ça la priorité, parce qu'on a quand même beaucoup de labels qui arrivent au fur et à mesure, on comprend pas trop où ça veut en venir, et là ça permet de au moins nous on essaie de donner le maximum de lisibilité sur nos produits et sur nos producteurs aussi localement.
Oui, on en parlait là-dessus. Tout à l'heure des labels, du coup dans la multitude, comment choisir, en tout cas à quoi ça correspond, parce qu'il y a tout un tas de paramètres en fait à mettre ensemble.
Et du coup, dans cette logique un petit peu de sensibilisation justement des usagers, est-ce que à la ferme, du coup, vous faites des visites un petit peu apprenantes, je ne sais pas, avec des écoles ou autres ? Est-ce qu'il y a des visites qui sont organisées ou des choses directement
Alors oui, on a fait ça, des visites de ferme. Et dernièrement, donc on a un marché de producteurs à Martigné-sur-Mayenne qui s'appelle le Mille. On l'a appelé marché d'intérêt local. Et on a fait venir un ancien cuisinier de restauration collective qui était formé à la cuisine nourricière. L'idée, c'était de montrer, mais du coup plutôt aux familles, comment on pouvait cuisiner facilement et de façon très très gustative, ouais. Très bonne quoi, rapide, avec des produits bruts et des produits frais. Et donc c'était un peu l'idée, travailler sur le budget, les produits bruts, avoir des protocoles de cuisine qui sont efficaces pour pouvoir y arriver tous les jours.
Et peut-être changer un petit peu ses habitudes alimentaires aussi. Est-ce que ça, enfin, parce qu'on peut aussi manger différemment, manger moins de viande,
c'est ça.
Manger local et remplacer la protéine animale par d'autres produits, essayer de consommer au maximum local et de cuisiner différemment, des choses qui sont pas forcément emballées, oui, produits bruts, mais pas que en termes de type de produit, enfin type d'alimentation.
Eh ben oui, c'était la cuisine nourricière, c'est ça que ça promeut quoi. C'est-à-dire qu'on c'est un peu c'est une technique des quatre menus, donc c'est plutôt aller vers deux menus qui sont végétariens, un menu qui est viande et puis un menu qui est mixte où on diminue la quantité de viande dans le repas. Et donc l'idée c'était de dire on n'a pas besoin aujourd'hui de manger autant de viande qu'on en mange, mais par contre quand on en mange, autant manger de la viande de l'agriculture biologique de qualité. Et puis par contre quand on est sur des menus végétariens, des menus mixtes, il faut compenser l'apport de protéines par des légumineuses, donc qu'on trouve en vrac, qui sont des produits à pas cher et qui sont, quand on a un peu de technique, il faut l'apprendre évidemment, ça passe l'apprentissage, mais quand on a un peu de technique, marié à des légumes et à des céréales, et ben on a un repas complet et suffisant pour se nourrir et être en bonne santé.
Merci de l'avoir dit. Et c'est important, c'est un peu la base, hein, je pense.
Ouais, voilà. Peut-être à raccompagner aussi quand on change de régime alimentaire. Parfois, on peut avoir des carences. Enfin, on ne sait jamais en fait comment rééquilibrer notre assiette. Et du coup, effectivement, des conseils comme ça, c'est toujours hyper riche, justement.
Oui, c'est important quand on diminue l'apport de viande. qui apportent les 8 acides aminés essentiels, il faut les retrouver avec le mélange de céréales et de légumineuses. Et ça, c'est important à connaître, parce que si on oublie soit les céréales, soit les légumineuses, on n'a pas la totalité de nos besoins dans l'assiette. Et j'ai oublié une partie de ce que vous avez dit. C'était. tant pis, ça m'a échappé.
Enfin, les conseils, justement, ouais, pour quand on change de régime alimentaire. C'est ça. Et que...
Alors, ça se passe dans la durée, tout ça, en fait. Je crois qu'il faut en être bien conscient. C'est-à-dire qu'on ne change pas de façon de cuisiner. Et donc, il faut pas se stresser par rapport à ça. On ne change pas de façon d'acheter et de façon de cuisiner en une année. C'est un processus qui se passe sur, on peut dire, sur 5 ou 7 ans, voire 10. Et c'est un apprentissage. Il faut du matériel, un petit peu en cuisine. Donc, il faut acheter un petit peu, mais c'est pas non plus exorbitant. Mais il faut quand même du bon matériel. Et puis, il faut connaître des protocoles de cuisine qui font qu'on va sortir un petit plat rapide, mais qui donne envie... le soir, quoi.
Tout en gardant les valeurs nutritives du coup de l'aliment.
Tout en gardant les valeurs nutritives.
Merci en tout cas pour ce partage. C'est très intéressant et très riche.
On a bien parlé, je trouve. Et je trouve que c'est bien de finir par ce côté changement d'habitude alimentaire, comment on cuisine, qu'est-ce qu'on met dans notre assiette, parce que c'est un peu la base, je trouve, de la lutte contre le gaspillage alimentaire aussi.
Pour une santé aussi, je pense, pour une santé à la fois physique, mentale, enfin une santé au sens large, quoi.
Et puis le goût des bonnes choses.
Le plaisir.
Le plaisir,
c'est ça, le plus important. Ouais.
Je crois qu'il ne faut pas oublier le plaisir. Je dirais une essoreuse à salade, j'ai l'impression que des fois ça fait peur à certaines personnes, enfin je l'entends hein, je crois que il faut se faire plaisir à essorer une salade, parce qu'on sait derrière que on va se fabriquer sa vinaigrette, on va rajouter des oignons de couleur dedans qui sont mangeables crus, qui vont mettre du goût, du peps dans la salade. Éventuellement, on va mettre une tomate verte, un bout de poivron.
Quelques graines.
Et voilà. Et derrière, vous faites un plat de céréales légumineuses et vous avez un repas complet et qui a du goût, qui est sympa et qui tient le budget, quoi.
Et qui donne envie. Ça, c'est quand même important.
Et qui respecte l'environnement.
C'est ça.
Et qui représente le territoire aussi.
Oui, complètement.
J'insiste un petit peu, mais c'est vrai qu'en Mayenne, on a la chance d'avoir plein de producteurs qui sont ultra variés sur plein de choses différentes. Et on peut les voir partout, en fait, sur le territoire, que ce soit dans un magasin ou marché ou ailleurs. Et je pense qu'on se rend pas compte de la chance qu'on a là-dessus, en fait, parce que je prends la variété des fromages, des pains paysans, tout ce qui est en légumes locaux aussi, mais en fruits.
Qu'on va vers l'autonomie alimentaire, c'est ça?
Ah, pas forcément, mais on s'y rapproche.
En tout cas, on peut prendre beaucoup de choses en local, c'est vrai. Et du coup, c'est une chance de pouvoir aussi faire vivre son territoire en consommant local, d'avoir accès à tous ces produits de qualité. On avait prévu avec Elodie de finir sur qu'est-ce qu'on pourrait améliorer à la fois dans le développement du bio, dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Il y a déjà pas mal de choses, puisque... Il y a peu de déchets, en tout cas, une espèce de rationalisation aussi sur le territoire des différents acteurs. Beaucoup de cohésion. On avait parlé du transport qui est encore quelque chose qui pourrait être mis en place tout à l'heure, qui avait une tentative il y a quelques années qui n'a pas perduré à cause du contexte ou peut-être trop peu de producteurs. Ça pourrait être un des points à améliorer. Benjamin, est-ce que tu vois autre chose ?
Moi, je pense que la sensibilisation sur pas mal de petits sujets pour rassurer les gens. En fait, je pense qu'il y a encore trop de personnes qui pensent que le bio, c'est cher, que ça. Alors que globalement, c'est pas vrai. On a des produits qui sont accessibles partout. Et aussi sur les pratiques, le vrac, c'est pas très compliqué, mais il faut faire l'effort de faire la première démarche pour se rendre compte que c'est pas compliqué. Et je pense que c'est toutes ces choses-là où on a un gros travail à expliquer aux gens, en fait, comment réussir à consommer en tendant vers le zéro déchet, en tendant vers le plus de local, le plus d'origine France.
Peut-être sur l'histoire des produits, justement, parce que je pense qu'on peut être trop souvent déconnecté. En fait, on se fige uniquement du coup sur le prix qu'on va acheter le produit, mais derrière en fait on oublie tout ce que ça implique, le travail qui est fait derrière, et donc du coup ça c'est peut-être important aussi de le rappeler et de sensibiliser effectivement les personnes sur en fait pourquoi ce produit arrive aujourd'hui dans le magasin Biocoop, quel a été son trajet avant, qu'est-ce qu'il a vécu avant.
Et c'est le lien entre les magasins, les producteurs et nos consommateurs, et ça je pense qu'il y a de la toujours la notion de présenter les gens, montrer que ce produit-là, c'est pas un produit qui vient d'un autre pays ou de l'autre bout de la France, c'est comme ça. Et c'est aussi réussir à ramener des producteurs sur des temps, mais ce qui n'est pas évident aussi pour les producteurs, parce qu'ils ont un travail qui est très prenant aussi. Oui. Donc du coup, c'est trouver cette chose-là pour rassurer. Parce que je pense que plus on créera le lien entre consommateurs, nos vendeurs et les producteurs, plus on arrivera à sensibiliser les gens, et les gens comprendront ce que c'est que ce produit, et ils seront peut-être tentés par des produits qu'ils ne consomment pas généralement.
Complètement.
Christophe.
je pense que je pense qu'il y a une prise de conscience qui doit se faire sur le fait que l'agriculture biologique permet moins de pesticides dans l'agriculture, quoi. Et donc ça, je crois que c'est pas encore. Enfin, la connaissance de l'environnement je pense qu'on a tout intérêt à approfondir ça et à l'approfondir dans nos actes, parce que ça, on fait pas forcément le lien entre le fait quand on mange bio, le corollaire derrière, c'est qu'il y aura moins de pesticides, en fait. Et en fait, je suis pas sûr qu'on fasse le lien entre le produit et l'agriculture qu'il y a derrière. Est-ce qu'elle peut nous apporter pour l'environnement? On est arrivé sur un système d'alimentation qui a séparé le produit de l'agriculteur, qui est un peu notre société aussi, parce qu'on s'est beaucoup urbanisé. Mais quelque part, le fait de travailler localement comme ça, comme on fait, c'est le champ quand vous prenez la voiture, que vous allez à Mayenne ou à Château-Gontier, les champs qui sont bio, c'est des champs où il y a de la biodiversité et où il y a pas de pesticides, quoi. Et ça, c'est important, je pense, de le conscientaliser. Quoi.
Oui, que c'est à côté de chez nous.
C'est, que... c'est chez nous,
ouais.
On est dans cette logique, je ne sais pas, tu es maraîcher paysan.
Oui.
Voilà, de dire qu'être un paysan, c'est être aussi implanté sur un territoire, que la notion de pays, d'être enraciné dans un endroit et d'être en harmonie aussi avec cet endroit-là, de le respecter. Et d'en prendre soin, c'est important dans cette démarche-là, en tout cas. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, la première chose que tu nous as dit, c'est de parler de ta ferme en tout début d'émission, de dire qu'il y avait de la biodiversité dans ta ferme, qu'il y avait des insectes.
Une ferme, c'est des champs, mais c'est des haies.
C'est vivant.
C'est vivant. Mmh. C'est de l'eau qui coule. Et c'est donc il faut préserver tout ça.
Ouais, c'est du coup ça rejoint un petit peu de rappeler aussi que la biodiversité c'est du vivant et qu'on doit maintenir ce vivant aussi pour qu'on puisse vivre aussi dans des bonnes conditions et de la respecter aussi surtout ce vivant.
Plus vous avez de biodiversité sur une ferme, plus l'équilibre se fait et donc. En agriculture bio, ce qu'on essaye, c'est de travailler avec les insectes, et du coup pas contre, en fait.
complémentarité encore.
Donc c'est pas toujours évident, mais quand vous vous mettez en tête qu'il faut que vous travaillez avec, eh bien il y a des solutions qui émergent et des pratiques qui émergent aussi.
Je crois qu'on arrive à la fin. C'est bien de finir là-dessus.
Ouais. Ouais.
Sur le vivant, sur le respect de l'environnement. Merci à tous les deux.
Merci
d'être venus parler à notre micro. Merci à la PES d'avoir fait cette proposition de portrait, de rencontre, d'interview et de thématique. Voilà. Merci à Joël, à la technique.
Merci.
Qui en a profité pour faire ses courses parce qu'on a dû bien travailler au micro. Merci Elodie.
Merci Caroline.
Voilà, et donc on se retrouve le mois prochain avec toi.
Je ne sais pas encore, ce sera la surprise.
Prochain rendez-vous de la PES. Bonne soirée à tous.